Enfin bref, nous continuons notre pénétrante étude du Perek Relek, la Agada du Talmud, et nous sommes ici à la page Tzadik Aleph que vous avez photocopiée devant vous. Il y a assez, je crois, d'exemplaires pour tout le monde. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes dans les lignes larges, là où ça s'élargit, à la fin de la quatrième ligne. C'est-à-dire, vous comptez quatre lignes à partir de l'élargissement. Vous avez trouvé? Là où il y a écrit Be'isrim. Ça? À la fin de la quatrième ligne. Quelqu'un l'a pas trouvé? Trouvé? Très bien. Bon, de quoi s'agit-il? Bon, la Guémara, en parlant de la résurrection des morts, a fait référence à un sage du nom de Gevira ben Pessissa. Puisque ce sage est assez rare, alors on nous raconte encore d'autres histoires liées à ce personnage, bien que ça n'ait pas de rapport direct avec la résurrection des morts. Alors, je lis ici donc dans la quatrième ligne large, Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné, Be'estrim ve'arba be'nissan, le 24 du mois de Nissan. Itnatilu dimosanaem Yehuda ou Mirushalayim. Les plaideurs ont quitté Yehuda et Jérusalem. La Judée et Jérusalem. Alors, les plaideurs nous ont quittés. Qui sont les plaideurs en question? D'ailleurs, c'est quoi cette date du 24 Nissan? Ça fait partie de... C'est une citation, en fait, d'un petit livre bien connu qui s'appelle Megillat Ta'anit, le rouleau des jeunes, qui est un ouvrage qui était courant à l'époque du Deuxième Temple et dans lequel il y a une liste des jours de l'année où il ne faut pas jeûner. Il ne s'agit pas des jours de fête indiqués dans la Torah, ça va de soi, ni du Shabbat. Il s'agit d'une série de journées fériées qui étaient en usage à l'époque du Deuxième Temple pour des tas d'événements heureux, essentiellement des victoires militaires des Maccabées. Mais enfin, il y a encore d'autres histoires. Alors, une des circonstances fériées, eh bien, c'est ce qui s'est passé le 24 du mois de Nissan, lorsque les plaideurs ont quitté la Judée et Jérusalem. Alors, de quoi s'agit-il? Alors là, la Guémara nous raconte en large et en long ce qui s'est passé ce jour-là. Keshebaou Bene Afrikia, lorsque sont venus les Tunisiens. Oui, le terme Africa, ou en arabe on dit Ifrikia, mais en latin on disait Africa. Africa, c'est cette région de l'Afrique du Nord qui, à l'origine, désignait la région de Carthage, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie. D'accord? Donc, quand la Guémara dit « Africa », elle ne veut pas dire l'Afrique, le continent africain, elle parle simplement de la toute petite région qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie. Alors, qui étaient les habitants originels de la Tunisie? Si ça te dérange, les chaises, on peut les déplacer, là. Ça fait un écran. On m'en fout, moi. Enfin, qui étaient les habitants de l'Afrique, c'est-à-dire de cette région? Alors, il y avait des Berbères, évidemment, comme aujourd'hui. D'ailleurs, il y avait une tribu berbère qui s'appelait Afos, qui a donné son nom, justement, à cette région de Africa. Mais il y avait également des Phéniciens. Qui sont les Phéniciens? Hein? Quoi? Les Phéniciens sont des Cananéens. Ils habitaient sur la côte du Liban. C'est ça. C'est-à-dire, nous savons que les Phéniciens, qui avaient donc, qui étaient donc des Cananéens, qui possédaient des villes marchandes extrêmement importantes dans la partie nord des Israël qu'on appelle aujourd'hui le Liban, ils avaient des tirs de Tyr et de Sidon, en hébreu Tsor, Sidon, et puis Byblos plus au nord. Enfin, donc il y avait une série de villes phéniciennes, ils avaient une sorte de petit empire, qui était un empire commercial qui colonisait les côtes de la Méditerranée. Alors c'est eux qui ont fondé la ville de Marseille, justement. Ce sont des Phéniciens qui ont fondé la ville de Marseille et pas mal de villes du littoral occidental de l'Espagne. Et en tout cas, disons, leur plus importante colonie, c'était la colonie de Carthage. Carthage, qui est à côté du site de la moderne Tunis, C'est de l'araméen, c'est du cananéen, ça veut dire Kart Hadash, la nouvelle ville. Ça, en hébreu, on aurait dit Kiria Hadasha. Ça ressemble d'ailleurs. Bon. Il y avait donc les Phéniciens en question. Certains d'entre eux étaient probablement ce qu'on appelait le Girgashi, les Girgasséens, qui ont quitté Eretz Israël lorsqu'il y a eu l'invasion des Béné Israël par Yehoshua bin Nun. Et donc il y a une tradition très ancienne, d'ailleurs qu'on retrouve effectivement dans leur texte à eux aussi, qu'ils auraient des revendications sur Eretz Israël. Les Hébreux sont venus, ils nous ont chassés, on a dû s'enfuir en Afrique, mais nous avons nos revendications là-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque les Palestiniens ont quitté la ville de comment s'appelait ça, pas de Beyrouth, c'était plus au nord, de Tripoli, au Liban, avec Arafat et tous les autres, eh bien, ils se sont réfugiés à Tunis. D'accord ? Une sorte de d'atavisme historique qui fait que quand les Goïms quittent Israël, ils vont vers la Tunisie. Il y a une raison à cela. La Guémara raconte plus loin, d'ailleurs, dans le même chapitre, que lorsque l'empereur assyrien Sanhérib a fait le siège de Jérusalem, il a proposé aux habitants de Jérusalem de capituler. Il a dit je vous enverrai dans une terre comme la vôtre. Et la Guémara demande c'est quoi la terre dont il parle qui est comme la nôtre? Et bien la Guémara dit c'est Africa, c'est-à-dire la Tunisie. Et la Tunisie, ça ressemble par le climat, par le paysage humain aussi peut-être, ça ressemble un peu à Eretz Israël. Comme le disait d'ailleurs si bien Boujna. Et s'il ne l'a pas dit, il devrait le dire. Et donc, les Africains en question, qui reviennent de loin, donc viennent Kesheba ou Bene Afrikia, je lis ici le texte de la Guémara, lorsque les Tunisiens sont venus, Ladoun im Israël, plaider contre Israël. C'est-à-dire, ils ont convoqué les Juifs au tribunal. Quel tribunal? L'Ifne Alexandros Mokdon, devant Alexandre de Macédoine, c'est-à-dire Alexandre le Grand. C'est quoi cette histoire d'Alexandre? Ben, Alexandre était le premier à avoir réalisé une sorte d'empire universel qui réunissait l'Occident et l'Orient sous une même hégémonie politique. Et alors, à partir de ce moment-là, les Juifs se sont demandé, enfin pas les Juifs, les nations se sont dit, ben voilà, maintenant il y a une instance internationale, on va pouvoir se présenter devant un tribunal international pour régler des conflits litigieux, des litiges vieux de plusieurs siècles, il faut enfin les régler. C'est-à-dire cette idée de faire une sorte de cour internationale devant laquelle on pourrait présenter ses arguments, une sorte d'organisation des Nations Unies. Tout cela dans la personne d'Alexandre le Grand. Alors donc, les Palestiniens en profitent, ils vont voir l'ONU, enfin, les Cananéens vont voir Alexandre le Grand, vous voyez qu'il y a des atavismes. Et Amroulo, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Eretz Kenaan, Shelanuhi, le pays de Kenaan, c'est à nous. Dirent-ils, car il est dit, Eretz Kenaan Nigvulotea, le pays de Kenaan selon ses frontières. Urnaan, Abuhon, Deanhu, Inchehava. Or, Kenaan est l'ancêtre de ces personnes-là. C'est-à-dire, ce sont des descendants de Kenaan, et donc, ils demandent la possession d'Eretz Israël. Voilà, l'argument est clair. C'est-à-dire, vous vous êtes emparés de cette terre par la violence. En fait, c'est nous les habitants légitimes, et donc nous réclamons notre terre. Drôle d'argument, quand même. Bon. Amar leho geviha ben pesissa l'chachamim. C'est alors que Geviha ben Pessissa a dit aux sages. Donc Geviha ben Pessissa est un sage très ancien, contemporain d'Alexandre le Grand. Il dit au Chachamim, Tenuli reshut ve'eler ve'adun immahen ifne Alexandros Mokdon. Donnez-moi l'autorisation d'aller plaider avec eux, enfin contre eux, devant Alexandre le Grand. Pourquoi est-ce qu'on lui donnerait l'autorisation? Et bien pour une raison très simple. Vous vous rappelez que Geviha ben Pessissa, on avait étudié ça la semaine dernière, je t'en rappelle, il était bossu. N'est-ce pas? Dans le débat qu'il avait avec le Sadducéen. Ah, toi aussi, tu étais là. Oui. Oui, il y a plusieurs héros qui sont venus. Non, c'est vrai, hein, le jour de la neige, c'est là qu'on peut compter les héros. Et donc, oui, c'est vrai, c'est vrai. extraordinaire. Ça m'a touché profondément. On a vu la semaine dernière que Gevihah ben Pessissa était un bossu. Or, il y a une règle importante, c'est qu'un bossu, ou toute personne d'ailleurs qui a un défaut corporel important, n'a pas le droit d'être membre du Sanhédrin. C'est-à-dire qu'il n'est pas un représentant officiel du judaïsme. C'est-à-dire s'il y a un corps juridique qui représente les rabbins, c'est le Sanhédrin. Mais comme lui, il est bossu, il ne peut pas en faire partie. Alors c'est un sage très important, on étudie sa Torah, mais il ne peut pas faire partie de la représentation légale. N'est-ce pas? C'est très important, donc il y a un sage qui est un peu outsider. Alors il dit aux rabbins, laissez-moi leur parler. Quelle est la logique? Il leur dit comme ça. Im ani anatseach otam, si j'arrive à les vaincre, imroulaem, vous leur direz, Torah Moshe nitratrem, la loi de Moïse vous a vaincu. Ah non, j'ai sauté ici quelques lignes. Im yenatsruni, s'ils me vainquent, imrou, vous direz, hediot shebanu nitzartem, vous avez vaincu un simple particulier de chez nous. C'est-à-dire, si ça avait été un de nos sages qu'on avait envoyé, d'accord, mais c'est quelqu'un qui n'est même pas membre du Sanhédrin que vous avez vaincu, ça ne prouve rien. Veim ani anatsruni, mais si moi j'arrive à les vaincre, imrou lahem, alors dites-leur, Torah Moshe nitzartem, c'est la loi de Moshe qui vous a vaincu. Donc il n'y a rien à perdre. C'est-à-dire, quand on va dans des confrontations internationales, qu'on représente le peuple juif, il est très important que les risques soient calculés. C'est-à-dire qu'il n'y ait rien à perdre. On peut dire précisément qu'on n'ait que à gagner. Qu'à gagner. D'accord? Qu'ont fait les rabbins, pensez? Ben, il y a écrit, Natnu lo reshut. Ils l'ont laissé faire. Ve'alach vedan imahem, il est allé les voir. Amar lahem, il leur a dit, c'est-à-dire il demande aux Tunisiens en question, n'est-ce pas? Les Cananéens, Phéniciens d'Afrique. Amar lahem, il leur a dit. Mehichan atem mevi'im re'aya, d'où est-ce que vous amenez vos preuves? Quelle était la preuve au fait des Cananéens? Ils ont amené un verset, n'est-ce pas? Ils ont amené un verset qui dit Eret Kenan iglote, c'est-à-dire que la Torah elle-même affirme que cette terre est la terre de Kenan, n'est pas la terre d'Israël. Vous savez que le terme Eret Israël n'apparaît pas dans la Torah. Eret Israël, c'est pas écrit dans la Torah ça. D'accord? Alors Me'echan atem mevi'im re'aya, d'où est-ce que vous amenez vos preuves? Amrulo mina Torah, ils lui ont dit de la Torah. C'est-à-dire à chaque fois que l'on accuse Israël en cour internationale, on se base sur des documents israéliens. Vous savez, par exemple, il y a tout un dossier qui a été présenté aux Nations Unies par les pays arabes pour prouver, sur la base de documents officiels israéliens, que le mont du Temple est un lieu saint exclusivement de l'islam et pas du judaïsme. D'accord? Il y a toujours des Israéliens pour faire des bêtises, ou bien il y a des Juifs qui se proposent pour aider les autres. C'est-à-dire, par exemple, vous savez que le projet de constitution d'un État palestinien a été rédigé par un juif. Ça fait partie. Donc, il leur dit, ils lui disent, ben voilà, nous avons nos preuves tirées de la Torah. D'accord? Amar lahem, il leur a dit, Afani, moi non plus, lo avi lachem reaya et la mia Torah, je ne vous amènerai de preuves que de la Torah. C'est-à-dire, si vous vous basez sur le terrain de la révélation, alors il faut voir ce que cette révélation dit. Chez Neymar, car il est dit, Vayomer Arur Kenaan Aved Avadim Yé Lechav. Il leur dit, maudit soit Kenaan, il est esclave d'esclaves de ses frères. Aved Shekanaan Echasim, si un esclave a acquis des biens, Aved Lemi, à qui est l'esclave? Un Chasim Lemi, et par conséquent, à qui sont les biens? C'est-à-dire, la Torah dit que ce pays est le pays de Kenaan, mais Kenaan nous appartient. Donc, la terre de Kenaan nous appartient, puisque Kenaan est un esclave. Ah. Oui. Est-ce que c'est clair?
Alors, pas clair? L'objectif, c'est que ça appartient aux Grecs?
Alors, quand les Grecs viendront, on en parlera. Pour l'instant, ils ne sont pas venus. Enfin, disons, pour l'instant, on discute avec les Cananéens. Quand les Grecs viendront, ben, on discutera avec les Grecs. Mais il y a ici un autre, il y a un problème assez moral assez grave ici. C'est que pourquoi est-ce que Kénaan est esclave? Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? C'est vrai que son ancêtre n'a pas été très, très brillant. Mais enfin, quand même, pour cela condamner toute une descendance à l'esclavage pendant l'histoire, c'est un peu énorme. Vous ne trouvez pas? Il faut trouver à cela une solution. Kénaan en question, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il s'est manifesté dans le texte de la Torah, dans la paracha de Noir, comme étant dépravé sur le plan sexuel. Bon, c'est dommage. Mais ça veut donc dire qu'il est dans son être esclave de ses instincts. D'ailleurs, que veut dire d'ailleurs le terme Kénaan? Ça vient de quel mot?
Kanoa.
Kanoa, ça veut dire quoi? Soumis. Knia, soumission. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, dans son être, est doué de soumission. Est-ce que la soumission est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça, d'après vous, c'est bien la soumission ou c'est pas bien la soumission? Ça dépend à qui et à quoi, exactement. Voilà. C'est-à-dire, la soumission en soi n'est ni un mal ni un bien, ça tout dépend à quoi on se soumet. C'est-à-dire, ça peut très bien servir, par exemple, pour se soumettre à Kadosh Baruch Hu, par exemple, ce qui est en soi assez positif. Vous savez comment est-ce qu'on dit soumission en arabe?
Islam.
Islam, ça veut dire soumission. Donc il y a cette idée, donc, une capacité dans l'âme de se soumettre. Et c'est-à-dire pour ça que la Torah appelle le pays Eretz Kenan. C'est un pays qui demande la soumission. On ne peut pas rentrer en Eretz Israël avec orgueil. Il faut avoir la capacité de se soumettre. Mais l'épisode de Kenan et de Noah a prouvé que la soumission de Kenan était envers ses mauvais instincts, envers son Yetzer Hara. Il faut l'aider, le pauvre. C'est-à-dire que si vraiment il se soumet à ses instincts, donc il est maudit, Arur Kenaan. Alors que faire pour le corriger? Eh bien, il faut qu'il soit esclave de ses frères. Parce que ses frères, eux, lui permettront justement d'accéder à une transformation morale. N'est-ce pas? C'est-à-dire que l'esclave d'esclave de ses frères, il sera. Ce n'est pas, hein, c'est pas ça la malédiction, c'est ce qui corrige la malédiction. La malédiction elle-même, c'est qu'il est soumis à ses instincts. D'accord? Et donc, il faut le faire entrer en rééducation pour lui permettre d'acquérir les valeurs. Alors, c'est ça que dit en fait Gebia ben Pessissa devant le tribunal d'Alexandre le Grand. Il dit, mais enfin, vous voulez quand même leur donner le pays, mais ce sont des barbares, vous allez voir quelle société ils vont faire, ils ne sont même pas capables de démocratie, ces gens-là. Vous allez voir, vous allez leur donner des millions de dollars, vous allez voir à quoi ça va servir. Alors vous voulez leur donner le pays? C'est ça que dit Gebiel Mempesissa. Arur Kenan, ils sont maudits. Il faut qu'ils soient au service des autres. Qu'est-ce qu'ils ont répondu à cela? Pourquoi Eved Avadim? Je ne sais pas. Non, Eved Avadim, parce qu'il est esclave déjà. Mais il est esclave de son Yetzirara. Alors que son esclavage soit esclave d'un autre. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Amar lahem Alexandros Malka. Alors Alexandre, le roi, leur a dit Ahazirulo Teshuva. Ça veut dire quoi ça? Ahazirulo Teshuva. Ça peut vouloir dire donnez-lui une réponse. C'est-à-dire que le tribunal somme de répondre. Mais on peut, ça peut vouloir dire également, littéralement, répondez-lui qu'il y a la teshuva. C'est-à-dire, c'est vrai qu'au départ, la société cananéenne, elle est très basse. C'est vrai. C'est-à-dire, c'était les pires, historiquement parlant, les cananéens étaient les plus dépravés de toute l'humanité. C'est eux qui, d'ailleurs, ont inventé la prostitution sacrée et le sacrifice humain. Ça vient de chez eux, ça. Sacrifier des bébés au Moloch. Hein? C'est eux qui ont inventé ça. Hein? Bien compris. D'où est-ce qu'on sait? On le sait par des sources historiques, tout simplement. Fouilles archéologiques et tout le reste. Par exemple, on a découvert en Sardaigne. La Sardaigne, c'est une île, hein, au sud de la Corse. C'est une ville qui a été peuplée par les Phéniciens en question. On a retrouvé des quantités de petits ossements brûlés à côté des ossements humains, à côté de leurs hôtels. D'ailleurs, les Romains racontent que lorsqu'ils ont fait le siège de Carthage, les Carthaginois à l'intérieur ont brûlé 300 enfants pour arrêter le siège. D'accord? C'est pas. D'ailleurs, la Torah aussi le dit. Qui gam et benehem et benotehem, yisrefu ba'esh l'Elohim. Ils brûlent leurs fils et leurs filles dans le feu pour leur Dieu. C'est écrit en toutes lettres dans la Torah aussi. D'accord? Ça veut donc dire que c'était une chose bien connue dans l'Antiquité. C'était notoire. En tout cas, donc, c'était des salauds, quoi. Voilà. Et alors, qu'est-ce que dit Alexandre le Grand? D'accord, mais vous pouvez faire teshuva. On va vous donner un début d'autonomie. On va vous donner des fonds. On va vous aider. Il y aura une aide internationale. Vous allez voir, vous allez faire teshuva. D'accord? Alors, c'est ce qu'ils répondent à Raziroulo teshuva. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit à ça, eux? Amroulo, ils lui ont dit, Tnu lanu zman shlosha yamim. Donnez-nous du temps, 3 jours. C'est-à-dire, on ne fait pas teshuva en un instant. Il faut 3 moments dans la teshuva. Le premier moment, c'est ce qu'on appelle le regret, harata. Le deuxième, c'est le vidouille, l'aveu. Et le troisième, c'est kabbalah le'atid, accepter de ne pas revenir là-dessus. Donc le temps typique de la teshuva, c'est 3 jours. Alors ils ont dit, donnez-nous le temps. On ne transforme pas une société complètement dégradée en un seul jour. Nathan Lahem Zeman, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on peut le demander à moi aussi, je suis prêt à toutes les réponses. Hein? Ah ben, il faut me le demander à moi. Il y a Harata, ben voilà. Harata, vidouy, kabbalah, le'atid. Le regret, la confession, comme on dit en français, l'aveu de la chose, et accepter pour l'avenir de ne pas refaire le mal. D'ailleurs, c'est pratique de le savoir parce que c'est ça qu'on doit faire à l'approche de Kippour, donc c'est chez. Donc, Natnulo, ils ont demandé, tenu la nouzeman chez l'Oshayamim, donnez-nous du temps 3 jours. Remarquez que l'expression de 3 jours revient souvent dans la Torah. C'est un thème qui revient fréquemment. On parle de 3 jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il est question de 3 jours, c'est la distance qui sépare Israël des nations. Exemple, lorsque Abraham arrive au Mont Moria, ça lui prend 3 jours pour y arriver. D'accord ? Or, l'expérience de ce qu'on appelle le sacrifice d'Israël, Akedat Yitzhak, c'est ça qui va faire la différence morale entre Israël et les nations. Ou bien lorsque la ville de Shrem fait la circoncision. Alors, ils sont massacrés le 3e jour, n'est-ce pas? Le 3e jour, parce que c'est le 3e jour que la circoncision fait le plus mal, donc ils étaient vulnérables, et c'est là que Shimon et Lévi en ont profité pour les massacrer, jusqu'au dernier. Pourquoi est-ce que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait la circoncision, on est handicapé pour 3 jours. C'est-à-dire qu'il y a un handicap d'Israël par rapport aux nations. Les nations qui ne sont pas circoncises, eh bien, les nations, elles avancent dans l'histoire. Et nous, on est prêt à un retard, 3 jours. D'ailleurs, la halakha est que quand on a fait la circoncision, on n'a pas le droit de partir en voyage pendant 3 jours. Ou bien si les parents ont un enfant qui vient de faire la circoncision, ils n'ont pas le droit de se déplacer 3 jours durant. C'est-à-dire... Il y a donc cet écart. D'ailleurs, quand Moshe va voir le pharaon, il lui dit, voilà, nous, on veut partir dans le désert. On ne veut pas trop s'éloigner, seulement 3 jours. Et puis, quand il s'agit de recevoir la Torah, que dit la Torah? Eh bien, préparez-vous pendant 3 jours. C'est-à-dire, il y a une constante comme ça. C'est-à-dire, quand ils ont demandé, donnez-nous 3 jours, c'est-à-dire, donnez-nous le temps de rattraper l'écart entre nous et Israël. C'est ça que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nathan Lahemsman, il leur a donné le temps nécessaire. Batku, ils ont vérifié. Velo Matsuchuva, ils n'ont pas trouvé de réponse ou ils n'ont pas pu faire teshuva. C'est-à-dire leur société est restée une société décadente dans laquelle tous les fonds qui leur ont été versés par la communauté internationale ont servi au bien-être de la classe politique. Et Velo Matsuchuva, et donc ils n'ont pas trouvé de réponse. Miyad Baruchou, ils se sont tout de suite enfuis. Ouh, Inch'Allah. Veinichou, Sedotehen, ils ont laissé leur champ. Keshen Zeruot, lorsqu'ils sont semés. Vecharmehen, Keshen Turot, et leurs vignobles plantés. Veotashana, et cette année-là, Shevi'it Aïta était une année sabbatique. Ah bon? À quoi ça nous sert de savoir que c'était une année sabbatique? Ah, donc il y a ça. Donc il y a un avantage économique. Quelle chance on a eu leur plantation et leur semaille, alors que nous, on ne semait pas ni on plantait. Alors, heureusement, donc il y a un avantage économique. D'accord? Comme quoi, la guerre a des avantages économiques. À moins que cela ne veuille dire encore autre chose. Ça peut vouloir dire peut-être que ça explique la différence morale entre Israël et les nations. Israël fait une année sabbatique et les nations ne le font pas. C'est quoi l'année sabbatique? Eh bien, c'est comme ça veut, le Shabbat de manière générale. Il y a le Shabbat de l'homme, le Shabbat de la terre. Mais enfin, ça veut dire quoi le Shabbat? Ça veut dire que, au moins du point de vue de notre identité collective, nous sommes déjà arrivés à un monde parfait. C'est ça le Shabbat. Alors, le Shabbat, c'est là où on peut entrevoir la possibilité d'un monde parfait. C'est ça? Et c'est pour ça d'ailleurs que les goyim, eux, ne font pas le Shabbat. Parce que du point de vue de leur histoire, leur histoire n'est pas encore achevée. Même sur le plan collectif. Et donc, ils ne peuvent pas faire le Shabbat. Et ça que dit la Gemara. La société d'Israël est déjà une société sabbatique. Alors, eux, ils méritent la terre. Mais celle des Cananéens ne l'est pas encore. Ils ne la méritent pas. Voyez-vous? Je pense que c'est bien clair. Et bien, puisque c'est comme ça, nous allons avancer. D'accord? T'as tout compris, Réouel? T'as tout compris, n'est-ce pas? Il faut que tu ailles le dire à tous les autres de la Mahlaka. Je vais leur répéter le coup. D'accord? Bon. Oui, parce que la Torah nous dit « Kedoshim tiyu », vous serez saints. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas saints. Mais d'un autre côté, la Torah dit « Am kadosh ata », tu es un peuple saint. « Am kadosh ata l'Hashem Elohecha ». Ça veut donc dire qu'au niveau collectif, Israël a déjà acquis la sainteté, mais au niveau de l'individu, eh bien l'individu doit acquérir dans sa vie personnelle la sainteté de la collectivité. C'est QFT. Bon, ce qu'il fallait démontrer. Ouais. Eh bien, continuons, puisque c'est comme ça, vous avez tellement bien compris. Shuv pa'amachat. Il est arrivé encore une fois. Baou bene Mitzraim, les Égyptiens sont venus. La Douna et Israël, ifne Alexandros Mogdon, plaidaient contre Israël devant Alexandre le Grand. Amroulo, alors l'exigence des Égyptiens? Les Égyptiens ne réclament pas la terre. Alors qu'est-ce qu'ils réclament? Aréou Omer, n'est-il pas dit Vachem Natan et Hena'am Bene Mitzraim, Vayash Ilum, Dieu donna la grâce du peuple aux yeux des Égyptiens et ils leur prêtèrent. Qu'est-ce qu'ils leur ont prêté? Des ustensiles d'or et d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Tenu lanu, kesef vezahav, shenetaltem imenu, donnez-nous l'argent et l'or que vous nous avez pris. C'est assez incroyable, mais il y a, je crois, 2 ans, il y a eu très sérieusement une réclamation juridique des Égyptiens, de la République égyptienne, pour que l'État d'Israël restitue l'or que les Hébreux avaient fait sortir d'Égypte. C'est presque incroyable, mais c'est vrai. Il y a 2 ans, il y a eu une réclamation, 2-3 ans, quelque chose comme ça, il y a eu une exigence présentée par des avocats égyptiens pour que l'État d'Israël rende l'or et l'argent. Et dans la Guimara, déjà, on voit ça. Et d'ailleurs, il y a eu également il y a eu effectivement un geste israélien parce que on a rendu des trouvailles archéologiques que les Israéliens avaient trouvées dans le Sinaï, et ça on leur a rendu. D'accord? Enfin, c'est quand même absolument incroyable cette histoire. Alors maintenant, à nouveau se pose la question de savoir est-ce qu'ils ont raison ou pas, les Égyptiens en question là dans la Guémara. Ils viennent se plaindre devant une instance internationale, disent enfin c'est quand même, vous nous avez pillé, le moment est de nous rendre l'argent. Bon, petite question, pourquoi est-ce que les Hébreux ont pillé les Égyptiens? C'était leur salaire. Bon, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on avait quand même... C'est plus qu'un salaire. C'est-à-dire qu'on a été affligé, asservi, humilié pendant 400 ans, ou 200 ans, peu importe. Donc, on mérite bien quelque chose. Hein, c'est quelque chose en passant comme ça. Mais, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est quoi le salaire? On va voir d'abord ce que dit la Guémara, après on va essayer de comprendre. Amar lahem givia, Amar givia ben pesissa la chachamim. Alors, givia ben pesissa a dit au sage. Vous vous rappelez de givia ben pesissa? C'est le même sage qu'on a vu tout à l'heure. C'est le sage bossu. Vous savez qu'il y a eu des sages bossus en Israël à part lui. Il y en a eu un autre, c'était Moïse Mendelssohn. Vous vous rappelez de Moïse Mendelssohn? Ben oui, c'est le fondateur du judaïsme moderne, si vous voulez, à Berlin au XVIIIe siècle. C'était le premier juif, si vous voulez, véritablement moderne de l'époque moderne, puisqu'il était entièrement formé à la culture européenne, bien que absolument respectueux de la halakha. Enfin, ses enfants se sont convertis au christianisme, malheureusement. En tout cas, donc, Moïse Mendelssohn était bossu. Et il a voulu épouser, d'ailleurs ce qu'il a fait finalement, une très belle jeune fille de la famille Oppenheim, qui était une grande famille juive allemande. Et il lui a demandé sa main, alors elle a regardé de haut, elle a dit « mais enfin ça va pas la tête ». Et alors il lui a répondu « mais enfin mademoiselle, sachez que lorsque je devais descendre dans ce monde, quand j'étais encore une âme, on m'a montré dans le ciel qui serait ma femme. Eh bien c'était vous. Mais le problème c'est que vous étiez bossu. Alors j'ai dit au maître du monde, Ribono shel Olam, tu ne vas quand même pas faire ça à une femme. Donne-moi sa bosse. Et c'est pour ça que c'est moi qui suis bossu et pas vous. » Eh bien, elle a épousé. Hein? On n'aurait jamais cru. Hein? Ben, ça a marché. Ça s'appelle avoir la tchatche. Bon. Et donc, Amar, Givya ben Pesissa la Chachamim, Givya ben Pesissa a dit au sage, Tenouli Reshut, Veler, Vadun, Aimahem, Lifna Alexandros. J'irai donc plaider avec eux devant Alexandre. Im Yenatsruni, s'ils me vainquent. Vous leur direz, vous avez vaincu un simple de chez nous. Pourquoi est-ce que c'est un simple? Parce qu'il n'est pas membre du Sanhédrin. Étant donné qu'il a un défaut corporel, il ne peut pas faire partie du Sanhédrin, et donc il n'est pas un représentant officiel. Comme quoi, il est important, lorsqu'on vient faire des confrontations entre Israël et les nations sur le plan international, eh bien, de ne pas prendre de risques. Il ne faut pas envoyer des officiels. Imroulahem, mais Diot Chebanou Nitzartem, vous direz, vous avez vaincu un simple de chez nous. Vimani anatsiachota, mais si moi j'arrive à les vaincre, imroulahem, vous leur direz, Torat Moshe Rabbeinu Nitratrem, c'est la loi de Moïse notre maître qui vous a vaincu. Natnu lo reshut, on lui a donné l'autorisation. Ça vous rappelle quelque chose? Ça rappelle l'histoire de tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors, ve'alar ve'adan aimaim, il est allé plaider contre eux. Amar lahem, il leur a dit, Me'echa natem mevim raya, d'où est-ce que vous amenez vos preuves? Amroulo min ha-Torah, ils lui ont dit de la Torah. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une accusation contre Israël dans une instance internationale, on se base sur des documents israéliens. C'est sur les Israéliens qui fournissent en général les arguments de leurs adversaires. Là aussi, donc, nous avons un argument tiré de la Torah. Puisqu'ils disent que la Torah elle-même témoigne de ce que les Hébreux ont pillé les Égyptiens. Amroulo minatora. Amar lahem, il leur a répondu, Afani lo avi lachem rea et la metora. Puisque c'est comme ça, je me placerai sur votre terrain, je n'amènerai de preuve que de la Torah. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit. Alors il amène un verset génial. Ou Moshav bene Israël, asher yashivu be Mitzrayim, Sheloshim shana varba meot shana. L'établissement des enfants d'Israël qui avait été établi en Égypte était de 430 ans. Tenu lanus sechar avoda, donnez-nous le salaire du travail. Shel shishim ribo, shishi'abatem et mitzraim, shloshim shana, varba meot shana. Des 600 000 personnes que vous avez asservies en Égypte pendant 430 ans, ça fait beaucoup d'argent tout ça. Donnez-nous le salaire et après on vous rend la différence. Alors, c'est quoi cette histoire? D'abord, effectivement, il faudrait vraiment comprendre pourquoi est-ce que nous avons pris l'or et l'argent des Égyptiens. On aurait très bien pu sortir d'Égypte en leur laissant leur or et leur argent. C'est Dieu qui a dit de le faire, mais la même chose. Pourquoi est-ce que Dieu a dit de le faire? Dieu aurait très bien pu s'en passer. C'est quoi cette histoire? Une tâche morale alors qu'on entre dans l'histoire? sale juif, voleur. Et il faut quand même expliquer. Eh bien, en fait, si on voit quel est le plan de la galoute, parce qu'il y a un projet de l'exil. Le projet de l'exil a été déjà formulé pour Abraham, n'est-ce pas ? Vayomer el Avraham, il dit à Abraham, Yado ateda, il faut que tu saches, ki ger yiye zaracha beretz lahem, que ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne leur appartient pas. Va'avadum ve'ainu otam, ils seront asservis et affligés. Arba me'otchana, 400 ans. Ve'gam et agoy, asher ya'avodu dananochi, et le peuple qu'ils serviront, je le jugerai. Ve'achariken, et après cela, yetzeo birchush gadol, ils sortiront avec de grandes richesses. Conclusion, à quoi sert la galoute? C'est comme si tu avais dit à Abraham, mon cher Abraham, je viens t'annoncer que d'une part, tes enfants vont souffrir pendant longtemps, ça sera très dur, ça durera 400 ans, mais ne t'en fais pas parce qu'après, il y aura beaucoup d'argent. C'est ça ? Donc, ça vaut la peine puisque finalement, il y a des richesses. À tel point même que lors de l'histoire du passage de la mer Rouge, Dieu a dit qu'il allait faire noyer les Égyptiens pour qu'il y ait plus de butin, pour qu'Abraham ne dise pas « Tu les as affligés, mais tu ne leur as pas donné les richesses. » Donc, comme quoi, si on fait le bilan de la galoute, ben, ça ne sert pas à grand-chose, sinon avoir de l'argent. Ça avait déjà l'écrit. Comment ? Ça avait déjà l'écrit. Quel kélim ? Oui, mais il en fallait encore un peu plus. Kélim, de l'or et de l'argent, d'accord, mais enfin, sur les chars des Égyptiens, il y en a encore beaucoup d'autres, encore plein. Ils avaient même des pierres précieuses sur les revêtements de leurs chevaux. Ça vaut la peine, quand même, on ne va pas laisser ça en Égypte. D'accord ? Toré, Zahav, Naasela, Rimnekudot, Akasev, tout ça, ça valait beaucoup d'argent, on ne va pas laisser ça. Donc, la sortie d'Égypte, elle sert à amener de l'argent. Oui, c'est logique, ça veut dire que c'est à ça que sert l'exil. Mais non, c'est quoi cet argent ? Cet or ? D'ailleurs, vous savez bien que l'économie, c'est le substrat de la culture. C'est comme si on voulait dire qu'il y a quelque chose de très important en Égypte, dont le support c'est l'or et l'argent, et c'est très important que ça sorte d'Égypte. À quoi a servi l'or en question ? Qu'on a fait ? Oui. Il a servi au veau d'or. Et puis quoi encore ? Le Mishkan, le tabernacle. D'accord ? Le Mishkan, ça sert à quoi ? À amener la présence de Dieu sur terre. N'est-ce pas ? Donc, grâce à l'or égyptien, Dieu arrive sur terre. Ce qui veut donc dire que la civilisation égyptienne était une civilisation gigantesque, puisque c'est elle qui a produit l'or, qui permet à Dieu de se manifester. Donc c'est génial l'Égypte. L'Égypte, c'est la maman d'Israël. Nous étions un embryon au sein de la matrice égyptienne, et nous sommes sortis de là-bas. Donc l'Égypte est énorme. C'est ce que dit alors la Torah, « Lo tetaev mitzri, tu ne dois pas abominer l'Égyptien ». Pourquoi ? Tiger aita be'arzo, car tu étais étranger dans son pays. Bizarre. On était étranger, mais on n'avait pas été très bien reçu. Et la Torah lui dit, il ne faut pas les abominer, parce que ils sont en fait la matrice de ton identité. C'est grâce à eux que tu es ce que tu es. Et la preuve, c'est que même la connaissance de ton Dieu, tu l'as grâce à leur or. Mais il y a un problème. L'or égyptien a servi également à faire un veau. Ça veut donc dire que l'or égyptien est un or mélangé. Une partie de l'or est un or du veau d'or, une autre partie est un or du Mishkan. En d'autres termes, lorsqu'on fait sortir des valeurs de chez les nations, eh bien les valeurs sont mélangées. Un exemple tout bête, la sortie d'Europe que nous vivons aujourd'hui. La sortie d'Europe, elle a amené beaucoup de valeurs ici. Un exemple parmi tant d'autres, le régime démocratique. Le régime démocratique, c'est bien ou c'est mal ? C'est bien. Il y a aussi des problèmes. D'accord ? Ça s'appelle les valeurs démocratiques, il y a des problèmes. Qu'est-ce qui va rester de ça dans l'histoire ? Ce que Israël en aura trié. C'est qu'il y a un travail à faire, un travail de tri des valeurs des nations. Et ça doit se faire dans une sorte de laboratoire. Et le laboratoire en question, eh bien, c'est les Juifs. Et les cobayes, c'est nous. Si vous voulez, nous sommes des bêtes d'expérience dans un laboratoire divin gigantesque dans lequel se fait le tri de l'or des nations. Et grâce à cela, l'Égypte n'est pas entièrement perdue. Parce que qu'est-ce qu'il reste de l'Égypte ancienne ? Les pyramides, c'est un reste, c'est vrai. Les momies aussi. Mais c'est des restes inertes, qui ne sont pas vivants. Qu'est-ce qui, de l'Égypte ancienne, est encore vivant ? Eh bien, les Juifs. C'est-à-dire, nous sommes les derniers Égyptiens du monde. C'est-à-dire, il y a encore une trace de ce qu'a été l'Égypte ancienne dans l'identité d'Israël. Un exemple tout simple, nous sommes encore, je crois, le seul peuple qui porte encore un ornement égyptien tous les matins sur sa tête. Vous avez remarqué ça ? Les Égyptiens, vous avez vu des statues égyptiennes dans les musées ? Là, on met les téphilines de la tête, qu'est-ce qu'ils ont là-bas ? Ils ont un serpent, un petit serpent, d'accord ? C'est donc une habitude égyptienne de porter un ornement ici, Totafot ben Enecha. Et nous sommes les derniers encore à conserver cet usage, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'égyptien en nous qui continue. C'est-à-dire que ce qui pouvait être récolté de là-bas, ce que les kabbalistes appellent l'étincelle de sainteté qui était enfouie dans les écorces, dans les clipotes, eh bien, c'est nous qui l'avons récolté. Donc, d'une certaine manière, les Égyptiens doivent nous remercier de leur avoir pris leur or. C'est-à-dire, ils doivent nous donner le salaire du travail qu'on a fait pour eux. Le travail, ce n'est pas de nous avoir construit les pyramides. Le travail, c'est d'avoir accepté de prendre leur or. Et donc de sauver l'Égypte de la perdition éternelle. Quelque chose de l'Égypte est préservé. Et on peut dire que c'est un peu le travail que fait Israël dans son passage à travers toutes les nations. Oui ? Quoi, ils veulent les scories ? Ils veulent le veau d'or ? C'est-à-dire, ils veulent le veau d'or, tu dis ? Ils veulent le Kodesh ? Ah, mais ça... Ah ben, oui, mais le problème, c'est que quand c'est chez eux, c'est immédiatement mélangé avec l'arbre d'Azara. C'est ça, le problème. Ce qu'on leur dit, c'est ce qu'a dit Pharaon d'ailleurs à Moshe quand il lui dit Lechou, Aivdou, Lelohechem, Baaret. Ne sortez pas d'Égypte, servez votre Dieu dans ce pays. Que répond Moshe? Nous sacrifions ce que les Égyptiens adorent. Hento Avat, Mitzraim, Nisbach, Lelohenu. C'est-à-dire, nous présentons ce qui est le sujet d'adoration des Égyptiens, c'est ça que nous présentons à notre Dieu. Alors ils vont nous lapider. Et donc, on ne peut pas. C'est-à-dire, si ça revient de là où ça vient, ça ne va pas marcher. Il faut donc que ça rayonne à partir de Tzion. Et donc, de là, tout le monde pourra en profiter. D'ailleurs, le prophète Zecharia dit en toutes lettres, au chapitre 14, qu'à la fin des temps, les Égyptiens viendront à Jérusalem pour se prosterner. Lors de la fête de Soukhot. Soit. C'est-à-dire que l'Égypte aura son, si vous voulez, sa parnassa, sa nourriture spirituelle. Mais elle doit venir de Tzion. D'accord ? Oui ? Quoi là ? Il a servi aussi à Omal, il a servi au Hegel. Il doit nous remercier de les avoir sauvés du Hegel aussi. Et bien, non, à ceux qui nous ont fait du mal. Ils nous ont causé du mal, tu veux dire. Oui, mais ça, on est fait pour ça, on a fait exprès. On savait que ça allait vers ça. Nous avons une vocation de cobaye, et donc on ne veut pas se plaindre. C'est pour qui est-ce que les Juifs travaillent ? C'est un problème. Pas pour eux. D'ailleurs, la preuve, on le dit dans le Hallel. Lolanu Hashem, lolanu. Ce n'est pas pour nous, ô Éternel, pas pour nous que nous travaillons. Parce que si on se demande... À quoi ça sert à qui gagne à la fondation de l'État d'Israël ? Alors, au niveau de la sécurité, au niveau économique, il y a des tas de problèmes. C'est tellement plus simple d'élever des troupeaux de moutons en Nouvelle-Zélande et le soir, dans ses pantoufles, de regarder un match avec une bière à droite et un chat à gauche et une pipe dans la main. C'est tellement mieux. D'ailleurs, les Nouveaux-Zélandais, c'est ça qu'ils font. Les Néo-Zélandais, ils font ça tout le temps. Et donc, pourquoi se casser la tête avec un pays si compliqué? Alors, c'est ce qu'on dit dans le Hallel. Lola, nous, Hachem, Lola, nous, on ne fait pas ça pour nous. Qu'il est Shimra Ten Kavod. C'est pour donner de la gloire à son nom. D'accord? Donc, les Juifs n'ont pas à se plaindre d'avoir choisi un métier, le métier de Juif, qui leur fait des problèmes. Ils sont faits pour ça. D'ailleurs, c'est toujours le problème de savoir est-ce que ça vaut la peine. Est-ce que c'est rentable d'être idéaliste? La réponse est qu'un idéaliste ne se pose pas ce genre de questions. D'accord? Si c'est rentable, alors c'est pas un idéaliste. C'est vrai qu'en fin de compte, ça vaut la peine, mais on n'y pense pas. D'accord? Et donc, l'histoire de... À part ça, le Hegel, il n'est pas si mauvais que ça. Parce que le Hegel, le veau d'or, qu'est-ce qu'il en a fait, Moshe? Comment? Il a détruit et puis il a réduit en poudre et puis après il a mélangé avec l'eau de la source et il l'a fait boire aux enfants d'Israël. Il l'a fait boire aux enfants d'Israël. Ah, pas, non ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à récupérer. Une fois que c'est brûlé, que c'est réduit en poudre et que c'est mélangé avec de l'eau vive, alors il y a quelque chose à récolter même de là-bas. Il y avait une fois, le Rav Kook raconte qu'une fois un curé lui a demandé, vous autres les juifs, vous n'êtes quand même pas capable de reconnaître qu'il y a quelque chose, de, même de votre point de vue, dans le christianisme? Alors, réponse du Rav Kook, oui, mais ça, on ne le dira qu'après que vous ayez renoncé à l'arbre d'Azara. C'est-à-dire, et il a amené l'exemple du Hegel. Une fois que les enfants d'Israël ont renoncé à l'idolâtrie et qu'ils l'ont réduit en poudre, alors on peut en récolter quelque chose. Donc il y a quelque chose à récolter quand même du veau d'or. Bon, ça c'est donc l'argument des Égyptiens. Que leur dit Alexandre le Grand? Amar lahen Alexandros Mogdon. Alexandre le Grand leur dit, Ahazirulo Teshuva. Répondez-lui par la Teshuva. Amrulo, tenula nous zeman, shelosha yamim. Ils lui ont dit, donnez-nous du temps pendant 3 jours. Nathan lahem zeman, il leur a donné le temps. Batku, ils ont cherché, ils ont vérifié. Velo Matteo Teshuva. Ils n'ont pas trouvé de réponse. C'est parce que la neige leur bloquait le chemin. Donc ils sont arrivés en retard au cours. Miyad, Inifu Sedotehem, Keshen Zeruot. Ils ont donc laissé leurs champs semés, Uvecharmehen, Keshen Netuot, et leurs vignobles quand ils étaient plantés, Uvarho, et se sont enfuis. Veota Shana, or cette année-là, Sheviait Aeta était une année sabbatique. Ça veut dire quoi que c'est une année sabbatique? Ça veut dire que c'est là la différence entre Israël et les nations. C'est-à-dire que Israël, sur le plan moral, a déjà accédé à une histoire sabbatique. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat soit bien de la terre, soit de tous les jours, enfin de toutes les semaines. Eh bien, le Shabbat, c'est la préfiguration d'un monde idéal. Donc si Israël fait le Shabbat, ça veut dire que déjà dans notre identité collective au moins, il y a déjà quelque chose qui goûte au monde à venir, au monde parfait. Et les Goyim, eux, n'y sont pas encore arrivés, ce qui explique l'écart moral entre eux et nous. N'est-ce pas? Bon. Veshuv pa'amachat. Là, nous lisons 2, 4, 6, 8... 10, 11 lignes à partir du bas. Veshuv pa'amachat. Il est encore une fois arrivé, c'est une troisième fois déjà. Baou bene Ishmael ou bene Ketura. Sont venus les fils d'Ishmael et de Ketura. Ketura étant la troisième femme d'Abraham. Ladunem Israël pour plaider contre Israël. Lifne Alexandros Mogdon devant le tribunal d'Alexandre le Grand. Ça veut dire quoi, Mokdon, en fait? Ça veut dire le Macédonien. Mais ce n'est pas évident, parce qu'il n'est pas impossible, d'après certains manuscrits, qu'en fait, il n'y avait pas écrit Mokdon, mais qu'il y avait écrit Macron. Macron, ça veut dire le grand, en grec. Ça. Mais comme on l'appelait également de Macédoine, alors ça a fait une sorte de mélange, une sorte de salade, et c'est devenu Mokdon. D'accord? Bon. Amroulo. Ils lui ont dit, Eretz Kenaan, le pays de Kenaan, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont dit? Pas du tout. Shelanu veshelachem, c'est à nous et à vous. C'est une autre sorte d'argument. C'est-à-dire, l'argument cananéen est différent de l'argument des Béné Ishmaël. L'argument des Cananéens est un argument d'ordre nationaliste. C'est-à-dire, cette terre était à nous, vous nous l'avez volée, rendez-la. L'argument des Béné Ishmaël est d'un ordre spirituel. Parce que Ishmaël n'est pas seulement un rival territorial, il est également un fils spirituel d'Abraham. Et en tant que fils spirituel d'Abraham, il prétend donc avoir le droit de partager avec les enfants d'Israël la terre d'Israël. Est-ce que c'est seulement le fils biologique? Alors là, il y a un petit problème. Effectivement, lorsque Sarah veut renvoyer Ishmaël, alors ça déplaît à Abraham. Et la Torah nous dit « Vayera le Abraham meod alodot beno ». Cela déplut beaucoup à Abraham à cause de son fils. Qu'est-ce que répond Dieu à Abraham? « Aliera be'aynecha, que cela ne te déplaise pas, à la na'ar ve'alamatecha, pour le jeune homme et ta servante ». C'est-à-dire que Dieu refuse d'appeler Ishmaël fils. N'est-ce pas? Et il lui dit « Tout ce que te dit Sarah, tu dois le faire, etc. » Mais Vegam et Ben Ahama les goy asimenu. Je ferai quand même une nation du fils de la servante, qui zar achahu, car il est ta descendance. C'est-à-dire, ça vous semble vouloir dire ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il est sa descendance biologique, mais qu'il n'est pas sa descendance spirituelle. C'est-à-dire, en tant que descendant spirituel, il aurait le droit au nom de Ben, et il n'a le droit que au nom de Zera, c'est-à-dire descendance. N'est-ce pas? C'est ça que tu veux dire. Maintenant, nous allons voir que ça pose un problème. Quel est l'argument? Et ça, ils sont très forts, les Béné Ishmaël, ils ont réfléchi à la question. Ils ont dit Shenehemar, car il est dit, Dirtiv, pardon, car il est écrit, Ve'ele Toledot Ishmael ben Abraham. Voici les engendrements d'Ishmael, fils d'Abraham. Pas seulement Zera Abraham. Urtiv, et il est dit, Ele Toledot Yitzhak ben Abraham. Voici les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham. Donc, il y a un parallélisme entre Ishmaël et Yitzhak. Les deux sont appelés par la Torah fils d'Abraham. Donc tous les deux se réclament non seulement de la descendance biologique d'Abraham, mais également de la descendance spirituelle. C'est-à-dire, d'après le premier témoignage de la Torah, Ishmaël a quelque chose à dire dans cette transmission. Donc il y a un message d'Abraham qui est transmis par Ishmaël. Dire effectivement, ça a été prouvé dans l'histoire, puisque à partir d'un certain moment, ils sont devenus monothéistes. Non seulement ils sont devenus monothéistes, mais ils ont fait la guerre pour ça. N'est-ce pas? Donc il y a quelque chose qui semble procéder de l'identité d'Abraham. Alors, de deux choses l'une. Si on est descendant, pour être descendant d'Abraham, c'est-à-dire pour être perpétuateur de l'enseignement d'Abraham, on a besoin de la terre d'Israël, alors Ishmaël en a besoin aussi. Et si ce n'est pas nécessaire, si on peut être successeur d'Abraham, propagateur de son enseignement, sans avoir besoin de la terre d'Israël, alors pourquoi est-ce que les Juifs en auraient besoin? D'accord? C'est-à-dire, c'est ça l'argument des Béné Ishmaël. D'accord? Il y a, vous savez, des grandes associations comme ça, entre religions, on appelle la communauté d'Abraham, etc., tous ces machins-là. Alors, ben, l'argument apparaît ici aussi. Hein? C'est fort quand même. Et d'ailleurs, il y a un texte gigantesque dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un midrash très ancien, attribué à Rabbi Eliezer Agadol, le Tana, donc un des maîtres de Rabbi Akiva, dans lequel on parle d'un verset de... C'est un très long midrash. Enfin, il y a un verset de Balak, dans la prophétie du prophète Bilam. Quand à la fin des temps, il dit « Oy mi yahye mi sumo el »« Malheur, qui pourra vivre lors de la réalisation de cela ?»« Mi yahye mi sumo el » Or, l'expression « mi sumo el » peut être lue, puisque la Torah n'est pas ponctuée, « mi shemo el » de celui qui porte le nom de Dieu. Alors, le Midrash nous dit, le Birkei de Rabbi Eliezer, ça veut dire que viendra un temps où Dieu se dira les enfants, les Hébreux se diront, puisque Dieu a associé son nom à Israël et à Ishmaël, puisque dans les deux il y a le mot El, qui pourra vivre lorsqu'Ishmaël attaquera Israël? Voilà, c'est comme ça que Mi Yirye Mi Sumo El. une sorte de confrontation entre deux formes de monothéisme, et toutes les deux peuvent se réclamer donc d'Abraham, et toutes ces deux formes donc peuvent réclamer également la terre d'Abraham. Ah, bon flanc. Vous avez compris la difficulté? Elle est, je crois, d'actualité, cette difficulté. Bon, alors voyons ce que dit la Guémara. Amar lahem Gevia ben Pessissa la Chachamim. Gevia ben Pessissa a dit au sage. Qui est Gevia ben Pessissa? Vous le connaissez déjà. C'est un sage bossu, n'est-ce pas? Nous li rechout veler vadou naïmaem l'ifni Alexandros Mogdon. Donnez-moi l'autorisation d'aller plaider contre eux devant Alexandre le Grand, ou de Macédoine. Imenatruni, s'ils arrivent à me vaincre, Imru, dites, Hediot Shebanu Nitzartem, vous avez vaincu un simple de chez nous. Veimani Anatseachotam, mais si j'arrive à les vaincre, Imru Lahem, alors dites-leur, Torat Moshe Rabbeinu Nitzratrem, c'est la loi de Moïse, notre maître, qui vous a vaincu. C'est-à-dire, quand on fait des confrontations internationales, il ne faut pas prendre de risques. Natnulo Reshut. Ils lui ont donné l'autorisation. Halach Vedan Aimahen. Il est allé plaider contre eux. Amar Lahem. Il leur a dit. Mais Hanatem Evim Reaya. D'où est-ce que vous amenez vos preuves? Amrulo Minatora. Ils lui ont dit, c'est de la Torah. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une confrontation entre Israël et les nations dans une instance internationale, c'est toujours basé, les accusations contre Israël, sur des documents israéliens officiels. C'est-à-dire, c'est la Torah, c'est votre Torah qui dit que nous avons raison. Ça nous rappelle des choses. Oui. Amar Lahem, il leur a dit, Afani lo avir e'aya et la minatora. Puisque c'est comme ça, je n'amènerai de preuves que tirées de la Torah. Et donc, on va se mettre sur le même terrain que vous. Chez Neymar, car il est dit. Alors là, il y a un verset extrêmement ardu qui va être amené et qu'il faut vraiment lire attentivement parce que il y a beaucoup d'implications. Vaïten Avraham et kol asher lo liyitzrak. Avraham donna tout ce qu'il avait à Yitzrak. Velivne apilakshim asher l'Avraham, quant aux fils des concubines d'Avraham. Nathan Avraham matanot. Avraham leur donna des cadeaux. La suite du verset n'est pas écrite ici, mais elle est écrite dans la Torah. Vaïeshalechem mal Yitzrak beno be'odenu chay. Il les renvoya de Yitzhak, son fils, de son vivant, Kedma el Eretz Kedem, à l'Orient, au pays de l'Orient. D'accord? C'est ça donc qu'a fait Abraham. Là se pose la question si Abraham, il y a ici un problème de logique. Si Abraham a donné tout ce qu'il possédait à Yitzhak, alors comment est-ce qu'il lui est resté quelque chose pour faire les cadeaux? Vous comprenez le problème?
On peut y aller d'une autre façon, c'est possible, non?
Comment?
On peut y aller d'une autre façon.
Comment ça, d'une autre façon? Non, non, il y a là-bas un tnah. Un tnah, c'est une virgule, quoi. C'est comme une virgule de guillemets. Et donc, s'il a tout donné à Yitzhak, il ne lui est rien resté pour donner au Pilakshim, au fils des concubines. Ah. À moins que ça veuille dire que quand on dit tout ce qu'il possédait, ça désigne une chose particulière. Comment? Tout ce qui est spirituel. Ah bon? Et pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas donné du spirituel à ses autres enfants? Là, je pense qu'il est très important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire posséder quelque chose. Posséder, ça veut dire avoir la possession de quelque chose. Ça veut dire que quelque chose fait partie intégrante de moi-même. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Vous savez qu'il y a un argument communiste qui dit la propriété, c'est le vol. C'est-à-dire que tous les malheurs de l'humanité ont commencé à partir du moment où un homme a dit « ça, c'est à moi ». Alors que le présupposé fondamental du communisme, c'est qu'il n'y a pas de bien qui est la propriété d'une personne, en fait, c'est le bien de l'humanité tout entière. Et la preuve, d'ailleurs, c'est qu'une propriété peut changer. C'est-à-dire, je possède quelque chose, je peux le vendre. Quand je le vends, il cesse d'être à moi. Ça veut donc dire qu'en vérité, la propriété est une fiction. On dit que c'est à moi, mais après c'est à un autre. Quelle est la seule chose dont on peut dire qu'elle est véritablement la propriété de quelqu'un ? Uniquement ce qui lui est donné en cadeau par Dieu. Ce n'est pas les communistes qui disent ça. Mais c'est-à-dire, si quelque chose m'est donné par celui qui a créé le monde, ça veut donc dire que c'est dans ma nature absolue d'être le propriétaire de cette chose. Et donc, par conséquent, ça ne peut pas être vendu. Quelle est la seule chose que Dieu a donnée à Abraham ? Eretz Israël. Donc, quand on dit qu'Abraham a donné tout ce qu'il possédait, il ne s'agit que de la terre d'Israël. Et donc, il lui reste encore pas mal de choses à donner en cadeau à ses enfants. N'est-ce pas ? Donc, il y a ici, quand même, une différence. Donc, alors, ici, on doit lire à nouveau le texte. « Vaïten Abraham et kol asher lo le Yitzhak » Abraham donna tout ce qu'il possédait à Yitzhak. « Velivne apilakshim asher le Abraham » Quant au fils des concubines d'Abraham, « Natan Abraham matanot » Abraham leur a donné des cadeaux. Et alors, le texte de la Gemara dit « Av shenatan legatin lebanav vechayav » Un père qui a donné des legs. Il écrit agatine, mais dans l'origine, il y avait écrit legatine. Ça vient du latin legatum, qui veut dire un héritage, un testament. Legatum. En français, on dit des legs. Donc, un père qui a donné son testament à ses enfants, behayav, de son vivant, veshiger ze me'alze, il les a renvoyés l'un de l'autre. Klum yesh la ze alze klum, est-ce qu'il y aurait encore des revendications de l'un contre l'autre? Donc c'est ça l'argument de Gevia ben Pessissa. Alors il y a ici plusieurs problèmes qui se posent à la lecture de ce texte. Énormément de problèmes, je ne pense pas qu'on va pouvoir tous les régler. Mais tout d'abord, qu'est-ce que vous attendriez qu'il y ait écrit dans la suite du texte? Que Alexandre le Grand leur dit, donnez-lui une réponse, et qu'il demande du temps. Et qu'il leur donne 3 jours, et ça ne marche pas, et ils s'enfuient lorsque les champs sont semés et les vignobles plantés, et que c'était une année sabbatique. Eh bien, tout ça, ce n'est pas écrit. C'est-à-dire qu'il y a. Le débat a été interrompu au milieu. Alors, ça veut dire quoi que le débat est interrompu? Ça veut dire que la réponse n'a pas été acceptée par les Béné Ishmaël, ou par Alexandre le Grand, que le débat est resté ouvert jusqu'à ce jour? Ça veut dire en tout cas une chose, c'est que les enfants d'Ishmaël n'acceptent pas le dialogue. Alors qu'il y a un dialogue avec le Cananéen, il y a un dialogue avec les Égyptiens, bien qu'en étant en rivalité avec nous, en étant nos ennemis, mais avec les Béné Ishmaël, le dialogue est impossible. Alors pourquoi est-ce que le dialogue n'est pas possible?
Il n'y a pas les poisons, mais il n'y a pas non plus Alexandre qui
dit... Oui, rien, rien.
Non, pas
de... Oui, mais Alexandre, peut-être qu'il sent qu'il n'y a pas à leur parler. C'est-à-dire, l'éventualité même de la Teshuvah n'existe pas. Peut-être qu'il prend parti. L'instant international prend parti. Il y aurait quelque chose d'assez bizarre dans cette histoire. Pourquoi est-ce que les Béné Ishmaël ne peuvent pas parler? Et vous savez, c'est un truc classique, le refus de la reconnaissance de l'existence d'Israël. D'ailleurs, Arafat est un héros chez les Arabes parce que, jusqu'au dernier moment, il n'a pas reconnu l'État d'Israël. Parce qu'il aurait pu le reconnaître, il aurait eu un État, s'il avait accepté que cet État lui soit donné par l'État d'Israël. Or, ça, c'est impossible. Et donc, on peut dire, il y a une constante de la politique palestinienne qui consiste à ce que si un État palestinien est fondé, Has v'Shalom, ça se fasse par imposition de la communauté internationale et pas par Israël. C'est-à-dire qu'il y a une garantie américaine ou n'importe quoi qui garantissent l'existence de cet État, mais que ce ne soit pas dans le cadre d'un accord avec l'État d'Israël. Or, comme pour l'instant la communauté internationale n'est pas prête à accepter cette idée-là, alors effectivement, il n'y a pas de chance que le conflit soit réglé. Mais il faut comprendre quelle est l'origine de cela. À part ça, une deuxième question qui se pose, c'est de comprendre pourquoi effectivement Abraham a fait le partage de cette manière. C'est-à-dire, si Abraham reconnaît qu'Ishmaël est un fils spirituel, puisqu'on dit « Ben Abraham », alors pourquoi est-ce qu'il ne lui donne pas également une partie de la terre, puisque cette terre est nécessaire pour accomplir le projet d'Abraham? Hein? Je vous trouble là par mes questions? Si je vous trouble, alors je ne les pose pas. Voilà. Vous pouvez quitter et rester avec les questions. Est-ce que vous voulez également des réponses? Voilà, on va vous donner des réponses. Alors, il faut bien reprendre dans la paracha de Lech Lecha, déjà, lorsqu'il est question de la naissance d'Yitzhak. Bien même avant. Il faut bien comprendre, c'est quoi le projet d'Abraham? C'est quoi son projet à Abraham? Ben, son projet, c'est que l'humanité entière connaisse Dieu, n'est-ce pas? Et donc, il veut sanctifier la vie des hommes en leur donnant la connaissance du Créateur. Ce projet, quand est-ce qu'Abraham l'a formulé? Il était déjà très jeune quand il a commencé à formuler ce projet, n'est-ce pas? Et le projet d'Abraham était de transformer toute l'humanité en croyant monothéiste, sans distinction de nation, de sexe, de condition économique, que tous les hommes aient la foi en Dieu. Donc on peut dire que le premier projet d'Abraham n'était pas le judaïsme. Le premier projet d'Abraham était un projet de religion cosmopolite monothéiste. Vous en connaissez, vous, une religion cosmopolite et monothéiste? Cosmopolite ne fait pas de différence entre les peuples. Hein? Une religion monothéiste qui est destinée à tout le monde. Vous connaissez ça? L'islam, évidemment. Le christianisme n'est pas monothéiste, il est idolâtre. Donc, on peut dire que le projet d'Abraham ressemble, à l'origine, à ce que l'islam prétend être. En vérité, l'islam n'est pas monothéiste, il n'est pas même cosmopolite. Non, il est monothéiste, mais il n'est pas cosmopolite, puisqu'en fait, il est impérialiste. Mais enfin, c'est autre chose. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, le projet d'Abraham, le projet originel, ressemble beaucoup à ce que prétendrait être l'islam. Et après, quand... Et puis ça marchait bien, hein. C'est-à-dire la Guémara nous raconte que, le Midrash nous raconte aussi que Abraham et Sarah convertissaient beaucoup de monde. Ils les convertissaient à quoi? Ils les convertissaient au monothéisme. Et puis Abraham parle à ses ouailles du Dieu unique. Et il dit, j'espère bien qu'un jour, le Dieu unique dont je cesse de proclamer l'existence, voudra bien un jour me parler. Un jour vient et Dieu lui parle. Vayomer Hashem et Abraham. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Va-t'en, abandonne tout ce que tu as fait jusqu'à présent, on fait quelque chose de nouveau. Coup de tonnerre, vous rendrez compte, dans la vie d'Abraham, c'est une chose absolument terrible. Dieu lui dit, tout ce que tu as fait, maintenant tu mets de côté, on va fonder une nation sainte. Et puis si c'est une nation, tu vas t'occuper plus de religion maintenant, tu vas t'occuper de politique. Tu vas fonder une entité politique qui va avoir un territoire, tu vas aller vers la terre que je t'indiquerai. Et là-bas, je ferai de toi une grande nation qui sera une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Pas pour les individus, ça tu en es pas mal occupé, maintenant on va faire de la politique. Nous allons sanctifier les nations. Vous vous rendez compte le coup de tonnerre que ça a été pour Abraham? Alors, je ne rentrerai pas dans tout le détail de la paracha de Lech Lecha parce que ça nous demanderait beaucoup d'études. Peut-être qu'à une occasion on le fera. Mais on voit que dans l'histoire de la vie d'Abraham, il y a eu toute une tension intérieure entre les deux projets. Entre son projet à lui, originel, qui concernait l'individu, et le projet d'Akadosh Baruch Hu, qui concerne la collectivité. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que Sarah était stérile. Et donc, par la force des choses, Abraham a épousé Agar. Et Agar était une Égyptienne. D'après le Midrash, même la fille du Pharaon lui-même. Et qu'est-ce que ça voulait dire dans l'esprit d'Abraham, cette chose-là? Est-ce qu'Abraham était content d'épouser Agar ou pas? Alors nous sommes des bons juifs, nous disons, non, il n'aimait pas ça, il aurait préféré Sarah. Mais si on réfléchit bien, Abraham a peut-être compris que l'intention de la Hagara, de la Providence, était de lui dire, eh bien voilà, nous allons faire une synthèse entre les deux projets. C'est vrai que tu vas donner naissance à une nation sainte, mais tu vas le faire en collaboration avec la plus grande des civilisations de ton temps, l'Égypte. C'est donc que l'Égypte va donner naissance à la nation qui va sortir de toi, et donc c'est Ishmaël qui réalise ça. Vous vous rendez compte la joie d'Abraham à l'idée que c'est justement de l'Égyptienne qu'il va avoir son peuple. Un beau jour, après 13 ans, Dieu lui dit, tu sais, Sarah aussi, elle va te donner un fils. et tu vas, je vais accomplir mon alliance avec lui. C'est quoi mon alliance? Le projet dont je t'ai parlé déjà, de l'Esraël et Goïgadol. Comment est-ce qu'Abraham il a pris ça, d'après vous? Mais il n'a pas aimé. Il a répondu, « Yomer Abraham et l'Elohim, Abraham dit à Dieu, « Lou Ishmael, il fanera. Puisse Ishmael vivre devant toi. » Ce qui veut dire « Non, merci. » Et alors, Akadosh Baruch Hu répond à Abraham, « Aval Sarah Ishtera Yoledet Echaben. Ne t'ai-je pas déjà dit que Sarah va avoir un fils? Va Kimoti et Beriti Ito et que j'accomplirai mon alliance avec lui? Ou le Zaro Ahara et avec sa descendance après lui? Ou l'Ishmael, chez Matira. Quant à Ishmael, je t'ai entendu. Gamouye Legoy et Gamouye Gdal. Lui aussi sera grand, il sera nombreux. Shnem Asar Nissim Yolid. Il va avoir 12 princes. Untativ Legoy Gadol. Je ferai de lui une grande nation. Je le multiplierai beaucoup, beaucoup. Oh là là. Bimod Meod, d'ailleurs, c'est en Gematria, Mohammed. C'est pas pour rien. Et, mais, Vedveriti, Akim et Yitzhak, mais mon alliance, ça sera avec Yitzhak. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet d'Abraham, en fait, s'est scindé en deux projets. Le projet originel, qui est de diffuser le monothéisme chez l'ensemble des individus, ça reste la spécialité d'Ishmaël. Et le projet qui concerne Yitzhak, la sainteté collective, eh bien, ça concerne Yitzhak. C'est le projet qu'Akadosh Baruch Hu voulait pour Abraham. Ça veut donc dire quelque chose de très important. C'est vrai que les deux sont de la descendance spirituelle d'Abraham, mais pas du même Abraham. D'Abraham avant la révélation, d'Abraham après la révélation. Et si on réfléchit bien, pour réaliser le projet d'Ishmaël, est-ce qu'il faut une terre ou pas? Non seulement il n'en faut pas, mais c'est un handicap d'avoir une terre. C'est-à-dire, si le projet est véritablement cosmopolite et qu'il concerne l'ensemble des individus de la Terre, il ne faut pas qu'Ishmaël ait une Terre. Tandis que si le projet est de constituer un État, une entité politique qui soit le réceptacle de la sainteté, qui puisse servir d'exemple aux autres, il faut pour cela une Terre, il faut un territoire. Donc il faut qu'il traque et Eretz Israël. C'est ça que dit Gevi'a ben Desissa. Il dit, Abraham a fait le partage. Il a partagé pas n'importe comment. Il a donné la Terre d'Israël pour réaliser le projet d'Yitzhak. Il a donné le monde entier, si vous voulez, enfin le désert, à Ishmaël pour réaliser son projet à lui. C'est ça la réponse d'Abraham aux enfants d'Ishmaël, enfin de Gevi'a ben Pessissa aux enfants d'Ishmaël. Mais alors à nouveau se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'Ishmaël ne peut pas parler. Ben pour une raison très simple, c'est que Ishmaël, c'est un fils de servante. Et si Sarah n'a pas d'enfant, c'est Ishmaël qui est l'héritier. Mais si Sarah a un enfant, il redevient fils de servante. Donc il doit nier l'existence d'Yitzhak. Parce que s'il entretient un dialogue avec Yitzhak, il a ipso facto reconnu son existence. Et donc il devient automatiquement fils de servante, ce qu'il ne veut pas. D'où cette tendance permanente qu'on voit chez les Béné Ishmaël à nier l'existence d'Israël. Ce n'est pas qu'Israël ne mérite pas d'exister, Israël n'existe pas. D'ailleurs, vous savez, il y avait récemment un député arabe israélien qui a abasourdi un journaliste israélien qui ne connaît rien à l'islam, parce que le député arabe israélien dit, lui, mais enfin, tout le monde sait très bien que le peuple juif, ça n'existe pas. C'était pour lui une évidence, vous comprenez? Et c'est parce que ça pose problème. C'est-à-dire, si la référence, c'est Israël, alors Ishmaël devient périphérique. Et ça, ils ne veulent pas l'accepter. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs ça de manière permanente dans l'islam, dans le Coran, ça se retrouve, etc. Je voudrais vous donner une petite illustration de ça. C'est une citation des mémoires de Jihan Sadat. Vous connaissez Jihan Sadat? D'Anwar. Anwar et Sadat, qui était président égyptien. Eh bien, sa femme a écrit ses mémoires. D'ailleurs, c'est une. Elle est chrétienne d'origine. Mais enfin, elle a adopté le mode de pensée arabe. Alors, dans ses mémoires, elle raconte, entre autres, la visite d'Anwar à El-Quds. Vous savez où c'est El-Quds? Vous savez pas où c'est El-Quds? C'est ici, à Jérusalem. Et puis, quand il fait la visite dans le Haram, Haram al-Sharif, c'est ce que nous appelons le mont du Temple, le Harabait. et que le président Chirac appelle l'esplanade des mosquées. D'accord ? Vous savez que le grand rabbin Citruc lui a dit une fois, mais enfin, c'est quand même le lieu du temple. Réponse de Chirac, ça reste à prouver. Et il a adopté le point de vue arabe, vous vous rendez compte ? Mais enfin bon, pour un chrétien d'origine, c'est absolument inouï. Enfin, toujours est-il que... Alors, elle raconte, Jihan Sadat, la visite d'Anouar, dit, le haram est un lieu extraordinaire, de très haute sainteté. D'ailleurs, 1 million de personnes peuvent y tenir, ils ont de la place pour se prosterner devant Dieu. C'est un lieu tellement saint, dit-elle, qu'il était saint même avant l'islam. Et puis elle passe à un autre sujet. Pourquoi est-ce qu'il était saint avant l'islam, au fait ? On aimerait bien savoir. Eh bien non, ça on n'en parle pas. Vous comprenez ? Et c'est-à-dire, il y a une négation de l'origine hébraïque de l'islam. Parce que ça créerait une situation de dépendance qu'ils ne veulent pas accepter. Que quoi que ? Oui, non, mais c'est pas ça que ça veut dire.
Ah, c'est quoi,
c'est ? C'est
là qu'il y a eu la négation de
Shmuel. Ah oui, bien sûr, il y a ça aussi. Bon. Évidemment.
Tout de même, dans
il faut se... Il y a des très grandes ambiguïtés envers Israël dans le Coran. Parce que, d'une certaine manière, Israël est considéré par le Coran comme étant l'origine de la révélation, mais ils sont appelés systématiquement les falsificateurs de la révélation. Parce que la thèse du Coran, c'est que ce qui a été révélé à Moshe, c'est le Coran. Et que les Juifs ont falsifié pour effacer le nom de Mohammed de la Torah. D'accord ? C'est comme ça que c'est vu. C'est-à-dire pour un musulman, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, tout ça, ce sont des musulmans. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Maintenant, reste le problème de savoir quels sont les cadeaux en question. Les matanotes, eh bien ça, c'est un sujet en soi. Et comment ? Oui ? Quoi ?
Une seconde.
Il est très bientôt le temps d'Arvit. Ce que je veux dire d'abord, c'est que pour ce qui est des matanotes, on le verra la prochaine fois. D'accord ? Maintenant, c'est quoi tes questions sur les deux premiers cas ?
C'est...
Oui.
Vous avez des premiers... Pour répondre, vous étiez esclaves de tout ce que vous recevez servir.
Oui.
Et après, on vient, nous, en tant qu'esclaves...
Demander notre récompense.
On dit exactement la même carte. Vous avez travaillé...
Oui, mais vous avez libéré. Comme vous avez libéré, il faut donner le salaire. D'accord ? Quand on libère un esclave, il y a la mitzvah de ce qu'on appelle Ha'anaka. Et la Torah dit qui Mishne Sechar Sachir Abad Rashashani. D'accord ? Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui.